je peux avoir le diapo, s'il te plaît. Alors, c'est amusant parce que lorsque Philippe et Myriam sont arrivés à Lyon, ils étaient très contents d'arriver là parce que c'était une nouvelle phase de leur vie. Et puis, Philippe en particulier était très content de ne plus être ancien après 12 ans dans son église parce que ça lui permettait de souffler, d'être plus disponible pour sa famille, etc. Et puis voilà que, surprise, il y a un cycle qui recommence. Il se trouve que parfois, que lorsqu'on signe avec Jésus, il nous arrive des choses dans la vie qu'on n'avait pas forcément anticipées. L'exemple de Philippe, Myriam en est un. Et puis cette histoire des travaux, voilà, quand je suis arrivé à Sonra, il y a 16 ans, je ne m'imaginais pas un jour qu'on serait dans des travaux de cette ampleur. Et puis avec un beau projet au final, dont on sera très content début 2024. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez que cette semaine, il va y avoir donc une entreprise qui va venir creuser des gros trous dans la cour, deux gros trous, pour couler un énorme cube de béton, puisque la semaine suivante, une autre entreprise va venir déposer des escaliers qui sont déjà fabriqués en usine et qui vont arriver avec un camion transporté avec une grue et fixé directement sur l'escalier. Donc si tout va bien, dans 15 jours, les escaliers seront visibles à l'extérieur des bâtiments dehors, donc ça sera une bonne étape de fait. La seule inconnue, c'est comment on va faire le camion pour arriver à tourner dans la rue ici. Alors ils ont prévu de bloquer la rue pour la journée, mais c'est quand même un peu serré. Si jamais vous vous garez par là, dans une semaine, évitez de vous mettre à l'angle, ça risque de frotter un peu. Voilà. Alors vous savez que Spider-Man existe ? Ouais, Spider-Man existe, ça c'est vrai. Mais surtout, est-ce que vous savez que Spider-Man est français ? Vous avez peut-être entendu parler de Alain Robert. Pour les Drômois, il vient de Valence. Et c'est un grimpeur assez exceptionnel parce qu'il a une caractéristique, c'est qu'il grimpe uniquement sans aucune assurance. D'ailleurs, dans sa vie, il a chuté 3 fois, dont 2 fois en étant assuré. Et du coup, il dit, finalement, c'est plus dangereux de grimper en étant assuré que... Alors ça, c'est pour lui, ne le prenez pas pour vous. Et si les ados, vous fermez vos oreilles, je vais avoir des problèmes avec vos parents. Alain Robert, c'est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'en fait, dans sa vie, il a gravi plus de 170 gratte-ciels, un peu partout dans le monde. Que ce soit pour des promotions commerciales, comme par exemple... À Dubaï, l'immense immeuble de plus de 800 mètres de haut qui s'appelle le Burj Khalifa, il était invité à venir grimper sur cet immeuble. Mais parfois aussi, de manière protestataire, en avril, il a grimpé sur un gratte-ciel à la Défense pour protester contre la réforme des retraites. Alors il était bien placé pour cela parce qu'en fait, il a 61 ans et du coup, ça lui rajoutait encore des trimestres pour pouvoir partir à la retraite. Donc il est obligé de grimper plus longtemps que ce qu'il avait prévu. Alors, je vous montrais cet exemple parce que, Alain Robert est quelqu'un qui aime bien se mettre en danger. Et c'est un peu sa raison de vivre. Mais vous savez qu'on n'a pas besoin d'imiter Alain Robert pour se mettre en danger. Il suffit de suivre Christ. Et j'aimerais vous montrer cela dans ce passage que l'on va lire aujourd'hui. Dernière remarque introductive, nous avons chanté tout à l'heure que Jésus est celui qui souffle dans nos voiles. Et on aime bien cette image d'un Jésus qui est là pour nous écouter, pour prendre soin de nous, pour nous entourer, pour nous montrer son amour. C'est vraiment le Jésus de grâce, le Jésus de compassion, le Jésus extraordinaire dont l'ami rêvait, quoi. Et puis, d'un autre côté, Jésus n'est pas que cela. On peut aussi être impressionné par sa puissance sans limite, sa sainteté qui est sans comparaison, ou encore son autorité irrésistible. Mais cet aspect-là, on a plus de peine à le réaliser. Or, en réalité, si on a tendance à favoriser plutôt la première caractéristique de la personnalité de Jésus, sa grâce, son amour, et moins la deuxième, son autorité et sa puissance. En réalité, Jésus, c'est les deux en même temps. Il est à la fois le Jésus plein d'amour et de grâce, et il est à la fois le Jésus plein d'autorité et de puissance. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer de découvrir aujourd'hui dans ce passage de Marc. Découvrir une nouvelle facette du serviteur dans Marc. Le serviteur victorieux sur le danger. Alors je vous propose de lire ce passage pour commencer. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » C'est un passage que j'ai préparé avec plein de découvertes extraordinaires et que j'aimerais vous partager ce matin. Ce passage est construit sur 7 paradoxes. Le premier, c'est un paradoxe lié au contexte. Donc on est en train de poursuivre notre série dans l'évangile de Marc et on a vu dans le chapitre 4 que Jésus enseigne ses disciples sous la forme de paraboles. Et les 3 dernières interventions à ce sujet, depuis début septembre, portaient sur ces paraboles. C'est-à-dire des histoires fictives, des histoires illustrées par lesquelles Jésus annonce un principe spirituel important. Mais là, le contraste, c'est qu'on a un retour à la vie réelle. Un retour à la vie pratique, non fictive. On sort de l'enseignement assis sur une chaise à entendre le maître nous expliquer des choses extraordinaires. Ici, Jésus est avec ses disciples dans une barque, c'est la vie pratique qui reprend. Mais dans les deux cas, Jésus a quelque chose à enseigner à ses disciples. C'est comme si, après les paraboles et un enseignement théorique, il y avait désormais une nouvelle section dans Marc avec une série de miracles, de telle sorte que les œuvres justifient la parole. Jésus a annoncé des principes spirituels importants, mais voilà qu'il va confirmer que ce qu'il dit est digne de confiance à travers les miracles qu'il va opérer. Alors, que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant d'ailleurs, peut-être que tu connais de Jésus son enseignement, sa sagesse, son modèle de vie, et puis son côté non-violent, et puis les aspects surnaturels sont moins importants pour toi. Mais l'inverse peut être vrai aussi. On peut être croyant et s'émerveiller énormément de ses miracles sans forcément accorder beaucoup de place à son enseignement théologique qui peut nous paraître un peu trop théorique. Mais là encore, les deux vont de pair. Les enseignements et les principes spirituels des paraboles et l'enseignement de la vie pratique de Jésus avec ses disciples et à travers les miracles qu'il fait, vont de pair. D'où l'importance ici de s'interroger sur la véracité, sur l'historicité de cet événement. Alors il y a une série de critères qui pourraient permettre de dire que cet événement est en effet réel, je vous en propose 5. Premièrement, la géographie du lac de Galilée. Ici, vous remarquez que ce lac de Galilée est un lac qui est entouré de collines. Ces collines sont justement propices à des mouvements atmosphériques qui provoquent des tempêtes régulières sur ce lac. Donc l'occurrence de cette tempête est quelque chose de tout à fait, on va dire, fréquent dans cet endroit-là. Deuxième aspect, c'est le style littéraire qu'emploie Marc pour rédiger cet événement. Marc n'est pas un témoin de l'événement. mais il a un style réaliste, assez fou, parce qu'en fait, en seulement 150 mots, il nous fait rentrer dans cette barque, et on a presque avec lui le mal de mer. Alors même, il nous propose d'ailleurs quelques détails qui sont superflus. Il nous dit que c'est le soir, qu'il y a d'autres bateaux, même que Jésus dort sur un coussin. Okay. Chercher une signification spirituelle, il n'y en a pas. Jésus était à l'arrière. Alors on peut expliquer techniquement qu'à l'arrière, c'est là où ça secoue moins qu'à l'avant. Mais en fait, Marc a entendu des personnes lui raconter la scène et il a besoin, pour la rendre plus vivante, de préciser ces éléments de décor. Ce récit est d'ailleurs aussi raconté par deux autres évangélistes, en particulier Matthieu, qui lui a vécu la scène. Et puis dans Luc, qui rapporte aussi cette scène. Donc il y a plusieurs témoins, directs ou indirects, de cet événement. L'autre aspect intéressant, c'est que ce récit n'est pas contesté par les contemporains de Marc. Vous savez que le christianisme, dans sa naissance, a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup d'opposition, de persécution, et que les détracteurs du christianisme ont été nombreux. Mais, en fait, s'ils se sont attaqués à Jésus et à son enseignement, les miracles n'étaient pas le point sur lequel ça leur posait problème. Quatrième critère, c'est le fait que ce récit, pour moi c'est le critère le plus frappant, c'est que ce récit, il est peu valorisant pour les disciples. On a ici affaire à des marins professionnels qui sont dépassés par les événements et qui sont sur le point de chavirer avec leur navire. Et qui en plus, à la fin du récit, se font reprendre comme des enfants, comme si ça ne suffisait pas qu'ils aient eu peur de mourir. En plus, ils se font rouspéter, enfin ils se font reprendre par Jésus. Mais surtout, et c'est le cinquième critère, ce récit correspond à l'objectif des évangiles. C'est-à-dire que ce récit a pour objectif de mieux nous faire connaître la personne de Christ. Et ce critère-là est particulièrement important pour comprendre la pertinence et l'importance de chaque passage qu'on peut lire dans les Écritures. Ils sont là pour nous faire comprendre mieux comprendre la personne de Christ. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce passage ne devrait pas être là, ou tout simplement que c'est un autre évangile, apocryphe, etc. Je passe là-dessus. Le deuxième paradoxe, c'est que ce devait être une banale traversée d'un lac en barque, et que ça s'est transformé en une traversée cauchemardesque face à une tempête extraordinaire. Vous savez, vous connaissez l'expression « qui sème le vent récolte la tempête ». Ben ici, ça n'a rien à voir. Les disciples n'ont rien demandé, ils ont simplement fait un trajet d'un point A à un point B, et ils se retrouvent dans la mouise la plus totale. Cet événement, il fait vraiment référence à des circonstances non contrôlables. Ce n'est pas une erreur de météo Galilée, ou encore parce que la barque était mal entretenue, qu'il y avait des trous de partout dans la coque, ou encore parce que c'était des marins d'eau douce, amateurs, c'était des pêcheurs. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, pour la plupart, ils ont laissé leur filet, et ils l'ont suivi. Donc c'est des gens qui connaissaient leur métier, qui savaient naviguer, mais qui se sont retrouvés dans une situation où leurs compétences et leurs capacités professionnelles n'étaient plus suffisantes. Vous voyez, le fait que Jésus soit dans la barque ne signifie pas pour autant navigation tranquille. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette peinture de Rembrandt qui est assez extraordinaire, parce que on sent la puissance des éléments, du vent, de la mer qui sont là et qui rendent cette navigation complètement improbable. On voit tout en haut ici les cordages. Il y a des navigateurs qui vont dire « on ne dit pas des cordages, on dit des écoutes », qui sont là, qui sont détachés parce que le vent les a arrachés. On voit à l'avant quelqu'un qui est un des disciples qui essaie désespérément de raccrocher la voile à cet endroit-là. Et puis, il y a des petits détails. Alors, je zoome un peu. Ici, on voit un des passagers qui est en train de vomir par-dessus bord. On peut aisément comprendre pourquoi. C'est assez amusant de la manière dont Rembrandt rend compte de l'horreur en fait, dans laquelle ils se sont retrouvés. En fait, il y a même 14 personnes sur le bateau, alors qu'on peut supposer qu'il y avait Jésus plus ses 12 disciples. La 14e personne, elle est ici en bleu, elle regarde le spectateur. Alors, certains disent que c'est Rembrandt qui s'est représenté lui-même. De manière assez amusante, parce qu'en fait, cette barque dans la tempête est une illustration des difficultés que l'on peut rencontrer dans notre vie, et du fait que on peut aussi avoir Jésus dans la barque de notre vie, mais que ça ne signifie pas pour autant qu'on n'aura jamais de difficultés, qu'on aura une navigation tranquille. Lorsque on donne notre vie à Jésus, eh bien, ça ne signifie pas qu'on n'aura aucun moment dans notre vie où on ne sera pas mis en danger, où on ne sera pas en difficulté, pour des circonstances que nous ne maîtrisons pas. Je le redis autrement. Ce n'est pas parce que j'accepte Jésus comme mon sauveur et que je mets une petite croix autour de mon cou ou que j'accroche un porte-bonheur au rétroviseur de ma voiture ou sur le guidon de mon vélo, soyons réalistes, que rien ne va m'arriver. Jésus n'est pas un porte-bonheur. Jésus n'est pas la garantie que dans notre vie, tout va rouler et va être extraordinaire. Ce qui nous mène au troisième paradoxe. Le troisième paradoxe, qui est assez fou, c'est qu'on voit que d'un côté, Jésus dort, et lui, il dormait, alors que la barque est en train de prendre l'eau. D'un côté, Jésus dort, et de l'autre côté, les disciples sont presque morts. Et ils sont à l'agonie, ils sont dans un désespoir extrême, ils pensent que ça y est, c'en est terminé, ils vont passer à l'eau. En fait, pourquoi Jésus dort ? Mais tout simplement parce qu'il a mené une journée d'enseignement aux foules qui l'accompagnent, et il est épuisé, et il est rincé. Et il dort parce qu'en fait, Jésus est un être humain, 100% homme, qui a besoin aussi de se reposer et de recharger les batteries. Mais cette humanité de Jésus ne signifie pas pour autant un désintérêt de Jésus. Puisqu'on pourrait dire... oui, Jésus, c'est Dieu fait homme pour nous comprendre. Donc, si les disciples étaient en galère comme ils l'ont été, Jésus n'aurait pas dû dormir, il aurait dû être là et les aider pour s'en sortir. Mais il dort parce qu'il est 100% homme, mais pas parce qu'il se désintéresse de ses disciples. En fait, la question derrière cela, elle tient dans un petit détail. Elle tient dans un petit détail au début de ce passage. Pourquoi cette équipe se retrouve sur ce bateau ? C'est Jésus qui leur a dit « Passons sur l'autre rive. » Jésus leur a dit « Passons sur l'autre rive. » Traversée banale, pas de souci, les disciples maîtrisent, etc. Mais Jésus sait tout. Et il savait à l'avance cette tempête qui allait arriver. Donc, on pourrait se dire « Mais Jésus aurait pas dit « Non, on partira plutôt demain matin. » Ou bien « Attendons un peu, on ne sait jamais. » Non, il les fait aller dans la tempête. Et ça nous mène à une réflexion sur notre manière de comprendre qui est Jésus. Parce que, assez naturellement, quand il se passe de bonnes choses, on est heureux de pouvoir remercier Dieu pour les bonnes choses dans notre vie. Mais pour autant, est-ce que Jésus se soucie de nous quand nous sommes sur le point de mourir ? Quand nous sommes sur le point de traverser, quand nous traversons des choses difficiles ? Et là, on touche à quelque chose d'assez sensible et d'assez fort dans notre cœur et dans notre vie, que oui, les difficultés que l'on peut rencontrer dans notre vie, eh bien Jésus peut être derrière ces difficultés. Pour autant, il est bien présent, il est bien là dans cette barque, même si nous, on peut avoir l'impression qu'il dort ou qu'il ne se soucie pas de ce que nous vivons. En réalité, cela ne signifie pas que Jésus ne s'occupe pas de nous. Pour vous le dire autrement, lorsque Jésus est mort sur la croix, est-ce qu'il se souciait de nous ? Vous savez, dans la parabole de la maison du fou et du sage, le fou a bâti sa maison sur du sable, le sage a bâti sa maison sur le roc, et la tempête est arrivée. Et la maison du fou s'écroule, la maison du sage résiste. Et ce rocher, ce roc sur lequel est bâtie la maison du sage, c'est l'image de Christ qui doit être le fondement de cette maison et le fondement de nos vies. En fait, que révèle la tempête et les difficultés qui peuvent s'abattre sur nos vies? Eh bien, elle révèle la réalité de ce dans quoi nous mettons notre confiance, ce dans quoi nous mettons notre espoir, ce sur quoi notre identité repose. Ça peut être sur notre épanouissement professionnel. Lorsqu'on a un boulot extraordinaire dans lequel on s'épanouit et qui est vraiment gratifiant, génial, et puis voilà qu'arrive, à un moment donné, il y a un conflit avec un collègue où notre patron nous fait un coup tordu, etc. Tout s'écroule. Qu'est-ce qui me reste ? Lorsque ma vie dépend pleinement de mes relations avec mes amis, avec ma famille, avec mes enfants, mes parents, on peut multiplier les exemples. Il peut y avoir des jours où ces personnes auxquelles on tient nous blessent et nous font du mal. Comment ça se passe dans ma vie ? Est-ce que cette tempête me laisse au fond du lit ? Ou si ma vie repose sur l'importance de la performance, de la popularité, des possessions, du paraître ou encore de l'auto-persuasion ? Est-ce que lorsque tout cela s'écroule, il reste quelque chose. Si ce que je viens de vous dire dans cette dernière phrase est mystérieux, c'était un des points de l'enseignement du week-end dernier au week-end d'église. Donc soit vous tournez vers quelqu'un pour vous faire le résumé, soit vous écouterez le message. Mais la tempête vient révéler notre identité. Si une tempête, les difficultés que je traverse me font mal, c'est certainement parce qu'elles touchent les fondations de ma vie, et c'est certainement parce qu'elles mettent en valeur la conception limitée, ou peut-être erronée, que je peux avoir du Christ, qui certes je peux avoir l'impression qu'il dort dans la barque, alors qu'en réalité, non, il ne m'oublie pas et il prend soin de moi. Pourquoi je suis persuadé que Christ ne les oublie pas alors qu'il dort ? Mais parce que Christ leur avait dit qu'il était là pour accomplir ce pourquoi le Père l'avait envoyé, c'est-à-dire pas mourir dans un naufrage sur un lac. Il avait un objectif plus loin. Ce qui nous mène au quatrième paradoxe, qui est assez fou. Jésus ici parle, dans ce passage, mais il parle au vent et à la mer. Il parle au vent et à la mer, comme si, voilà, il s'adressait à des personnes. Alors, il s'adresse à ces deux éléments parce que le vent et la mer sont, on ne peut pas trouver mieux comme exemple justement d'éléments naturels qui sont incontrôlables et contre lesquels on ne peut rien faire. Et la mer, c'est particulièrement frappant, c'est quelque chose qui est vraiment particulier et devant la mer, on perd toute notre puissance, toute notre... On peut rien faire lorsque la mer est déchaînée. Mais Jésus n'est pas en dialogue avec le vent et la mer. Il est à sens unique, en monologue. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « silence, tais-toi ». Littéralement « tais-toi, tais-toi ». Son autorité se manifeste, et face à ce vent incroyable, et face à cette mer démontée, Jésus leur ordonne de se taire. Il ne dit pas « j'ai le pouvoir de calmer le vent et la mer, alors calmez-vous ». Non, même pas. Il va direct au but « tais-toi » et c'est terminé. Et là, on découvre une facette de Jésus incroyable. C'est que Jésus fait plus que dominer le vent et la mer. Ce qu'on réalise, c'est que Jésus est le Seigneur du vent et le Seigneur de la mer. Jésus est le Seigneur de la tempête. L'implication, elle est énorme. Parce que si Jésus est le Seigneur de la tempête, Alors toutes les tempêtes suivantes, c'est aussi Jésus qui les domine. Et l'encouragement pour nous, c'est que si le vent et la mer lui obéissent, alors les circonstances de ma vie, aussi désagréables soient-elles, que je ne peux pas contrôler, en réalité, lui les contrôle. Et lui est là dans la barque et ne m'oublie pas. Ce qui nous mène au cinquième paradoxe, qui réagit le plus vite ici ? Les disciples ou Jésus ? C'est assez troublant de voir que les disciples ont fait tout ce qu'ils ont pu hein, pour pouvoir échapper à la tempête, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Et c'est en dernier recours qu'ils vont réveiller Jésus. Certainement qu'ils ne voulaient pas déranger le maître, ce n'est pas un marin de formation. Alors que Jésus, lui, se réveille et bam, première chose qu'il dit, avant même de répondre aux disciples, « Silence, tais-toi au vent et à la mer. » Pourquoi ce décalage de rythme ? Peut-être que, pour illustrer le fait que bien souvent, nous avons des biais de raisonnement dans notre conception de la place que doit avoir Jésus dans notre vie. Ce qui veut dire que lorsqu'on traverse des difficultés, on peut être un peu lent à impliquer Jésus dans ces difficultés, à parler à Jésus des difficultés qu'on a et à demander l'aide de Jésus. Je m'explique. Premier exemple de ce biais de raisonnement, c'est la crainte de le déranger. Certainement que là, ici, il est fatigué, il a besoin de dormir. Jésus a certainement mieux à faire avec des personnes qui sont dans des difficultés bien plus élevées que les miennes. En fait, c'est coller à Dieu une étiquette limitante, coller à Jésus une étiquette limitante, puisqu'il s'intéresse à chacune de nos difficultés. Il n'y a pas de difficultés trop petites auxquelles il ne s'intéresse. La deuxième réalité, deuxième biais de raisonnement, c'est que j'ai tendance à ne parler à Jésus de ma difficulté que dans la mesure où je perçois la manière dont il pourrait m'aider. C'est-à-dire que les disciples ici ne s'attendaient pas à ce qu'ils résolvent leur problème comme il l'a fait. Moi, à ma place, je me serais attendu à ce que Jésus se lève, tire deux voiles d'un côté et de l'autre, et puis rétablisse la situation sur le bateau, parce qu'après tout, il était capable de tout, mais pas qu'il s'adresse comme ça au vent et à la mer. Or, Jésus a souvent des solutions à nos difficultés qui sont surprenantes. Et laisser Jésus solutionner à sa manière mes problèmes et demande pour moi aussi une forme de lâcher prise et de dire « Ok, Jésus, là, il faut que tu le résolves, mais à ta manière. » Troisième biais de raisonnement, c'est un biais assez classique et naturel, c'est celui de tout essayer par mes propres forces, comme ces marins professionnels ici, de dire « je ne vais pas me laisser avoir par une petite tempête, je vais m'en sortir parce que j'ai déjà vécu ça. » Et puis en dernier recours, « ok, Jésus vient m'aider. » La réalité, c'est que l'un n'exclut pas l'autre. Mes compétences, mes capacités, mes dons ne sont pas exclusifs du fait que Jésus soit avec moi pour résoudre les problèmes que je rencontre. Et c'est très concret, ça. Que tu sois encore dans les études et que tu aies un examen à passer, est-ce que pendant l'examen, tu parles à Jésus des problèmes de maths que tu es en train de résoudre et tu lui demandes de te souffler la réponse à l'oreille ? En tout cas, de t'aider et d'upgrader ton intelligence. Est-ce que tu, dans les problèmes que tu rencontres dans ta vie, tu en parles à Jésus avant que ce soit in extremis ? Vous savez, un peu comme quand on est malade, voilà, j'ai tendance à aller chez le médecin, quand vraiment, ça, je ne m'en sors pas. Jésus, il peut venir et être à nos côtés dès le début de nos problèmes. Le dernier biais de raisonnement, qui est assez frappant ici, vous voyez comment les disciples parlent à Jésus, ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Vous sentez la tonalité de cette question ? On sent du ressentiment, on sent des reproches. Et parfois, le ressentiment qu'on peut avoir envers Jésus peut nous empêcher et nous limiter dans notre souhait de lui demander de l'aide et de venir à lui. Ce qui nous mène au sixième paradoxe, c'est le paradoxe du boomerang. L'effet boomerang. Les disciples reprochent à Jésus de les laisser mourir, mais Jésus, en retour, leur reproche d'être craintifs, des poules mouillées, de ne pas avoir de foi. Zéro foi. Enfin, en termes de pédagogie bienveillante, franchement, c'est pas conseillé de s'adresser comme ça à des élèves. Jésus leur reproche d'être craintif et de ne pas avoir de foi. Pourquoi il est dur avec eux comme ça? Il aurait quand même pu les prendre dans ses bras et leur dire « Mes petits, je suis là, Jésus est là, ne soyez pas inquiets comme ça, ça va bien se passer. » Non, avant même toute autre formule de bienveillance, il va les tailler. Il les reprend presque comme il vient de reprendre le vent et la mer. Alors, peut-être que vous êtes nombreux ici à ne pas avoir d'enfants, mais je pense que l'image, vous pouvez quand même la saisir. Un enfant à qui vous faites plaisir, vous l'emmenez au bois des lutins et vous lui faites faire de l'acrobranche. Vous allez même avec lui dans l'acrobranche parce qu'il ne veut pas être tout seul, qu'il a peur. Et puis après, quand c'est terminé, vous lui achetez une glace. Et puis voilà, une super après-midi, il s'est éclaté. Et puis voilà que c'est l'heure de partir. Parce que vous savez que derrière, il faudra enchaîner la douche, repas, pyjama, dodo, et que votre heure de coucher est encore loin. Et voilà qu'au moment de partir, l'enfant fait une crise, parce qu'il veut encore faire une dernière fois le circuit rouge, qu'il a trop aimé, et c'est trop dommage de partir. Et cet enfant qui se met à criser et à s'énerver, parce qu'on lui a dit non, c'est terminé, et qui nous dit, tu es méchant, franchement, tu es méchant, moi, je veux un autre papa, parce que le papa de Joseph, il est gentil. Est-ce que c'est justifié de sa part? Bien sûr que non. Est-ce que pour autant, ses parents à cet enfant sont méchants? Bien sûr que non. S'ils disent stop à cet enfant, s'ils disent maintenant c'est terminé, on passe à autre chose, c'est parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils ont conscience de ce qui est à suivre, de l'heure qui tourne, etc. Et qu'il a aussi besoin de se reposer. Et on est un peu dans cette situation, dans ce passage, où les disciples viennent considérer que Jésus les a abandonnés, alors même qu'ils vivent avec lui déjà depuis quelque temps, et que depuis le début de l'évangile de Marc, il leur a montré qu'il était un enseignant hors pair, il leur a montré qu'il avait une autorité même sur les esprits impurs, et il leur a montré qu'il était capable de pardonner les péchés, de guérir un paralytique, et que même la foule célébrait la gloire de Dieu. La réalité est que l'effet boomerang que Jésus renvoie ici aux disciples, c'est qu'ils ont une conception limitée de qui est Jésus, alors même que Jésus leur a donné tout ce qu'il faut pour avoir une conception entière de qui il est, à savoir celui qui peut les sortir de cette tempête. Et parfois, nous sommes aussi comme cet enfant, totalement fictif bien sûr, qui dans sa frustration, va considérer que tout ce qu'il a reçu de bon avant, ça valait rien parce que il en voulait plus et parce qu'il ne supporte pas qu'on lui dise non. C'est aussi inspirant sur la manière dont nous construisons notre relation avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans les conseillers éducatifs, on insiste beaucoup sur la manière dont on doit exprimer ses émotions. Et on veut apprendre aux enfants à exprimer leurs émotions sans tout casser, sans taper sur les portes et les murs, etc., sans se rouler par terre, autrement que par des réactions violentes. Dans la tempête, dans les difficultés, quelle est ma réaction naturelle? Ça peut être aussi comme un enfant, de mettre en colère, de considérer que Dieu m'abandonne, de considérer que Dieu n'est pas là, que Dieu me laisse mourir. Alors que Jésus répond, Pourquoi est-ce que je suis mort sur la croix ? C'est pour toi que je suis mort sur la croix. Et c'est pour toi que j'ai donné ma vie. Donc calme-toi, respire et reconsidère la manière dont tu penses que je prends soin de toi. Ça nous mène au dernier paradoxe, paradoxe 7. Septième paradoxe, et là, il est vraiment hallucinant. Et en même temps, il est hyper effrayant. Parce que les disciples, dans ce passage, ont été confrontés à une double peur. Leur première peur, c'était la peur de mourir. Mais ils découvrent une peur encore plus grande que celle de mourir, c'est celle de découvrir qui est vraiment Jésus. Qui est donc cet homme, disent-ils à la fin de ce passage. Les disciples étaient terrifiés par la tempête, mais ils se retrouvent confrontés à une autre puissance encore supérieure, encore plus terrifiante, c'est le Seigneur de la tempête. Ils réalisent qu'ils sont en présence du Très-Haut, qu'ils sont en présence du Tout-Puissant, et que avoir Jésus dans sa barque, c'est super, c'est rassurant, mais réaliser que ce Jésus qui dort dans cette barque, un peu, vous savez, comme le petit bébé qui dort dans sa crèche qu'on célèbre à Noël, c'est le Tout-Puissant, c'est le Seigneur de la tempête, c'est celui qui contrôle et qui a autorité sur les éléments les plus fous de cette planète. Et ça, ça peut être terrifiant. Et ça, ça peut même me mettre en danger. Et les disciples en ont conscience ici. Sa puissance est donc complètement compatible avec sa compassion. Oui, Jésus est compatissant pour nous, mais oui, Jésus est en même temps le Tout-Puissant et celui qui veut la sainteté absolue, qui veut la justice totale dans nos vies, qui veut qu'on le suive et qu'on le serve avec des cœurs entiers et sans tache ni défaut. Ainsi, on découvre dans ce passage une vérité extraordinaire, c'est que Dieu peut faire les deux, à la fois m'aimer, m'entourer, prendre soin de moi, et en même temps, me laisser couler, permettre que ma barque prenne l'eau et me laisser dans une situation où c'est la fin. Parce que cela ne signifie pas qu'il ne s'occupe pas de moi ou qu'il ne m'aime pas. Au contraire, c'est pour mieux me montrer qu'il est au-dessus des événements et que son amour dépasse même les circonstances de ma vie. Dans ce livre de Marc, on a donc un méta-enseignement qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on a vu déjà dans Marc 1, 2, 3, 4. Ce méta-enseignement, c'est que les disciples ici avaient une foi mal placée. Comment notre foi peut être bien placée ? Bien, nous avons besoin de regarder à ce que Jésus a fait à la croix. Parce que Marc, à travers ce récit, met en valeur ce que Christ a fait à la croix. Et qu'est-ce que Christ a fait à la croix ? Alors que les soldats se moquaient de lui, le provoquaient, l'humiliait, alors que la foule le raillait et se moquait de lui. Et que certains lui disaient, descends de la croix si tu es le fils de Dieu. Il s'adressait à celui qui avait autorité sur le vent et la tempête, au Seigneur de la tempête. Est-ce qu'il aurait pu sortir de sa situation ? Est-ce qu'il aurait pu descendre de la croix ? Mais évidemment qu'il aurait pu faire cela. Il avait plus que la possibilité de le faire, mais il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a baissé la tête, il a fermé sa bouche. Et il a accepté que la colère de la tempête de la justice de Dieu tombe sur lui. Il a accepté d'être terrassé et que sa barque coule et qu'il se noie dans cette situation où Dieu avait même déserté sa barque et seul il s'est retrouvé face à la mort et seul il a expiré. Il a accepté de ne pas Il a accepté d'être abandonné par Dieu pour que dans les tempêtes que nous rencontrons dans notre vie, nous ayons l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais. Que notre foi soit focalisée sur Christ à la croix comme fondement de notre vie. Et dernière affirmation de ce passage, comment Jésus a fait revenir le calme dans cette tempête ? Par sa parole. Qu'on puisse aussi lire sa parole pour que sa parole puisse apaiser nos cœurs et faire calmer les tempêtes à l'intérieur de notre cœur. Amen.
Alors notre culte touche à sa fin. On remercie Colin pour ses pensées. Et je te remercie parce qu'à un moment donné de ton propos, tu m'as fait réaliser quelque chose, Colin, c'est que tout au début de cette histoire, en fait, quand ils étaient encore sur le bord de la plage, le Seigneur aurait pu leur dire « Passez de l'autre bord. Et je vous rejoindrai demain ou dans 2 jours. Bonjour les dégâts. » Oui, le Seigneur, l'intention du Seigneur était d'être dans la barque au moment difficile avec ses disciples. Alors, chers frères et sœurs, mes chers amis aussi, c'est bon d'avoir le Seigneur dans notre barque. Et comme on l'a chanté, ainsi nous pourrons dire « Je suis tranquille, car tu es là. » Bonne semaine.